Cool. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de la Confrérie de métal. J'ai enfin nommé mon podcast, j'ai nommé la Confrérie de métal parce que je me disais, on a besoin d'être rassemblés, puis on est tous rassemblés par une barbell ou par du stock de métal, genre des racks, des affaires, fait que je trouvais ça drôle d'appeler ça comme ça. Fait que bienvenue sur un nouvel épisode de la Confrérie de métal avec Mélène Devan. May, bienvenue sur le podcast.
Hello!
Mais thérapeute du sport, tu as une maîtrise en sciences d'activité physique, tu t'es fait connaître énormément dans le monde de la thérapie fonctionnelle, de la rehab puis de la performance athlétique comme étant quelqu'un qui bridge le gap un peu entre la rehab puis la thérapie, puis la performance. En fait, je pense qu'il y avait un certain gap à ce niveau-là, particulièrement avec des populations d'entraînement fonctionnel puis des sportifs un peu plus compétitifs. Fait que je pense que c'est là que tu brillais beaucoup parce que tu arrivais dans une situation où est-ce qu'avant c'était right, tu t'es blessé, ben 2 semaines off, puis après ça, tu fais un retour progressif au sport, tu sais. Fait que t'es comme arrivé, puis t'as comblé un gros besoin à ce niveau-là. Fait que ça, c'était très nice. Puis avec toute la situation actuelle de COVID-19, puis avec toutes les pandémies, puis avec toutes ces affaires-là, ben les gens sont un peu forcés de prendre un pas de recul, tu sais, dans le sens que tu peux plus t'entraîner en à côté, tu peux plus continuer à pousser, tu es obligé de prendre ce pas de recul-là, puis les gens devraient commencer à s'interroger, du moins on le souhaite, sur qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer puis comment est-ce qu'ils peuvent continuer à progresser. Puis je pense qu'une de ces sphères-là, ça va être inévitablement la mobilité puis la rehab puis le contrôle, tu sais.
Ouais, de la pre-hab, si on veut, tu sais.
Exact, ouais. Puis mettons qu'on définit ça en ce moment, tu sais, quelqu'un qui aurait mal, tu sais, puis faudrait définir peut-être blessure avant de starter, parce qu'on parle de blessure, le monde se dit, ah, je suis capable de lever mon bras dans les airs puis j'ai pas une douleur lacérante à chaque fois que je bouge, fait que c'est pas une blessure, tu sais.
Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a des, tu sais, je veux dire, il y a des blessures aiguës qui sont secondaires à un trauma, tu sais, parce que là, moi, je me suis déjà fait call-out sur les médias sociaux. On ne peut pas prévenir les blessures. Ouais, je comprends qu'on ne peut pas prévenir une fracture, là, tu sais, tu te fais rentrer dedans, puis tu te parles de quoi, ça, je comprends bien, assez bien qu'on ne peut pas prévenir ça, tu sais. ce qui est blessure chronique, ce qui est dysfonction, mettons, musculo-squelettique, ce qui est problématique, qui vient d'une mauvaise mécanique de mouvement, ben c'est une réalité. Puis oui, ça, on peut le prévenir, là, assurément.
Tu sais, même on pourrait jaser puis dire que c'est probablement le cas de la majorité des blessures. Là, j'ai pas les chiffres, peut-être que tu es là. Mais je pense pas que la majorité des blessures dans le monde sportif sont traumatiques.
Oui, bien, yeah. C'est sûr qu'il y en a. Ouais. Mais mettons qu'on se place dans le contexte. C'est le contexte de ma business, moi, c'est on vit dans les gyms. Hein? Fait que c'est des gens, puis on vit dans des gyms d'entraînement fonctionnel, de CrossFit. C'est oui, je vois souvent de blessures de juste overuse, de juste, tu sais, comme on peut facilement dépasser la tolérance de tissu, même en ayant un mouvement qui est techniquement bon.
Oui.
Parce que, tu sais, si je pense que ça, je le dis souvent, quand on parle de l'épaule, ben un accrochage dans l'épaule, c'est en fait un phénomène qui est physiologiquement normal. Quand je lève mon bras, ça accroche, parce qu'en tant que tel, ça accroche. Je veux dire, il y a un pincement au niveau des structures, parce qu'il n'y en a pas d'espace. C'est pour ça qu'il y a une boucle, tu sais. Mais quand ça devient excessif ou quand on arrive là-dedans trop rapidement, ben c'est un peu comme décider du jour au lendemain que je vais me mettre à courir, fait que je pars puis je cours 10 km à chaque jour puis je me ramasse
avec... Que t'as fait tantôt, d'ailleurs.
Que j'ai fait depuis le COVID, j'ai recommencé à courir. Mais non, ça va quand même relativement bien.
T'as fait combien de kilomètres?
6-7, là. On n'a pas calculé exactement, mais...
J'ai fait comme 3 kilos puis j'ai dû faire de la marche puis de l'arrêt, là. J'ai dû faire comme des intervalles de course puis marche. Je pense que Strongman, ça me va pas. Je pense que c'est inquiétant. Mais oui, tu sais, j'adore ce que tu dis. Puis la première affaire, ça serait de voir qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui ne l'est pas, mettons. Parce que tu as probablement beaucoup de jobs de conscientisation à faire avec des athlètes, j'imagine, là-dedans, où est-ce qu'ils sont un peu habitués à ne pas avoir des mouvements optimales, j'imagine.
Peut-être pas nécessairement habitué à avoir des mouvements optimaux, je dirais habitué à vivre avec de la douleur.
OK, c'est encore pire dans le fond.
C'est normal que j'aie mal aux épaules, tu sais. Je fais du CrossFit, c'est demandant pour les épaules, oui. Est-ce que c'est normal d'avoir mal? Là? Je vais dire que ça, tu sais, peut-être pas.
Mais c'est vrai que le monde a souvent tendance à juste l'accepter. Comme si c'était, ouais, c'est correct.
même phénomène, ça, c'est pas juste dans le CrossFit. Tu as le même phénomène dans, mettons, le basketball, le volleyball, au niveau des tendinopathies patello-fémorales. Je veux dire, c'est normal d'avoir mal aux genoux parce que je joue au volley, au basket. Ben, pas tant, tu sais.
C'est quoi le problème avec ça, mais?
Normal est un mot... ben, c'est parce que là, comment qu'on définit les limites, tu sais, je veux dire, c'est sûr que si on parle de genoux dans le volleyball, le basketball, on parle d'épaule dans le CrossFit, oui, c'est très demandant. C'est des sports que c'est très demandant pour ces articulations-là. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir plus d'inconfort ou c'est normal de sentir que ces articulations-là sont plus sollicitées? Peut-être, mais si on se met à considérer que la douleur est normale, bien là, elle est normale jusqu'à quand, jusqu'à où? Les différentes personnes ont un seuil de douleur différent. Fait qu'à quel moment on va décider que, en fait, il y a comme une pathologie qui s'installe, tu sais?
Ça devient-tu contre-optimal pour la performance?
Bien clairement.
C'était vraiment une question, j'étais curieux de savoir. Je vais juste fermer ma cam parce que j'ai l'impression que quand ma cam est fermée, ça vaut le mieux. Fait que je vais juste fermer ma cam. Première affaire. Puis deuxième affaire, pourquoi tu penses que c'est pas optimal la performance d'avoir mal?
Ben parce que ça change en fait comment tu bouges. Fait que c'est sûr que est-ce que ça va impacter ta performance? Peut-être pas. Peut-être pas. À court, moyen terme, peut-être pas, parce que le corps a tellement de degrés de liberté pour te donner le mouvement que tu as besoin. Par contre, la douleur, il y a des adaptations motrices à la douleur, en fait. Il y a des études qui ont démontré que ton corps va aller chercher des fibres musculaires différentes. Tout ça va changer. Fait que c'est sûr que à long terme, ça peut avoir un impact sur la structure parce que le mouvement change complètement. Fait que non, c'est pas une bonne chose. T'sais, à court moyen terme, tu peux ne pas le réaliser, mais à long terme, ça peut avoir un impact.
C'est vraiment, vraiment intéressant, ça, sérieusement, parce que moi, je suis pas tant dans ce monde-là non plus, je vais t'avouer, là. Mais tu sais, puis même dans le monde dans lequel j'arrive, les sports de force. Je pense qu'on est vraiment hypocrite de juger les crossfitters ou les autres sports parce que il y a comme une grosse culture de la douleur en haltéro, il y a une grosse culture de la douleur en strongman, mais tu sais, c'est la première fois que j'entends ce discours-là. Il y a beaucoup de monde qui a leur truc, c'est juste ça fait partie de la game, accepte-le. Mais tu sais, c'était logique d'assumer qu'il y avait un impact délétère sur la performance, mais de le formuler comme ça va impacter ton patron moteur, c'est intéressant. Ça c'est vraiment bon, je pense. Là.
Mais, tu sais, l'impact sur la performance, je veux dire, jusqu'à où? Parce que là, je peux élargir le spectre de l'impact sur la performance. Ah, ça n'a pas d'impact sur mon lift. Je suis capable de faire mon max deadlift, tu sais, mais ça va avoir un impact sur ma récupération. Ça va avoir un impact sur ma capacité à surpasser un plateau. Ça va avoir un impact, tu sais, sur plein d'autres choses qui, si on regarde au-delà de juste la performance aiguë, mettons, disons-le comme ça, ben oui, ça peut avoir un impact. Puis je pense que, tu sais, de l'autre côté de la médaille, quand on travaille avec un athlète élite, c'est sûr qu'on va tolérer peut-être un peu plus de l'amener comme juste sur le bord de son seuil de performance, tu sais, puis d'accepter peut-être un peu plus d'inconfort dans l'entraînement pour pas impacter trop la performance, mais c'est pas quelque chose qu'on devrait faire avec tout le monde. C'est pas quelque chose certainement qu'on devrait faire avec monsieur, madame, tout le monde qui fait un sport récréatif dans le fond. Là,
c'est exactement là que je m'en allais, tu sais, à quantité de clients. Puis de toute évidence, ce podcast-là va probablement un peu plus aux entraîneurs, tu sais, ou des gens qui ont un intérêt très très prononcé pour. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai restarté ma cam, si tu veux savoir. Le monde te voyait juste avec ta coupe de vin, je trouvais que tu faisais pitié, fait que je vais venir t'accompagner. Mais tu sais, ce parallèle-là avec du monsieur, madame, tout le monde est horrible. T'as combien de monde qui font juste accepter le fait qu'ils ont mal aux genoux ou qui a juste accepté le fait qu'ils ont mal à l'épaule, puis t'es comme, t'es une fucking caissière chez Desjardins. Tu devrais pas avoir de la misère à te lever de ton lit, c'est pas normal, tu sais. Puis, il y a comme cette culture-là, un peu de l'acceptation, qui est vraiment problématique.
Oui. Ouais. J'ai lu à quelque part, je ne me souviens plus où, j'en lis tellement des articles, tellement, des articles scientifiques, des articles de blog, des ci, des ça. des fois, je m'écris des quotes que je vois, que je trouve intéressants, puis de où je les ai trouvés, mais des fois, j'oublie d'écrire de où ça vient, là. Mais, j'ai récemment lu un article, je suis en train d'oublier mon idée, c'était quoi mon idée? Je suis en train de penser à tous les articles que j'ai lus, ce que je veux aller, puis j'ai comme oublié ce que j'allais dire. Bref,
blessure voyez... chez la caissière chez Desjardins.
Ouais, non, ça avait comme pas rapport avec la caissière chez Desjardins. Ah oui, c'est ça, il disait que la douleur, c'est un appel au changement.
OK.
Comme ton corps qui te demande de faire un changement. Parce que on voit des syndromes de douleur qui apparaissent après très longtemps, tu sais, puis tu te dis, ben écoute donc, la personne, elle a fonctionné avec, elle a fonctionné comme ça pendant super longtemps avant d'avoir de la douleur, tu sais. Mais, puis toi, tu te dis, ben pourquoi tout d'un coup, elle en a? Tu sais, parce que si on parle d'avoir quelqu'un qui est en douleur, puis regarder c'est quoi la fonction de base de l'épaule, y a-t-il quelque chose qui bouge pas bien? Puis dire, OK, ma première étape, ça va être de restaurer ce mouvement fondamental-là. Ben, ça se peut que ça bougeait pas bien avant non plus, mais à un moment donné, le corps a fait comme, bon, ben là, j'ai compensé, oui, j'ai passé par d'autres chemins, mais ça a généré autre chose.
Pourquoi c'est ça, la première étape de restaurer le mouvement optimal? Parce que j'aurais pu penser que si tu as une blessure, ta priorité aurait été de traiter la blessure. Toi, tu fais un parallèle direct entre la perte de fonction et la douleur, de ce que je comprends.
Oui, parce que d'une part, je veux dire, oui, quand tu as une blessure, il faut que tu traites la structure qui est blessée, mais si on parle, tantôt on parlait de blessure aiguë versus blessure de overuse, mettons, là, ben c'est sûr que la structure qui est blessée, là, habituellement, c'est pas, je veux dire, c'est pas elle le problème en tant que tel, c'est où ça mène à un syndrome douloureux, mais le problème vient de d'autres choses. Fait que mettons qu'on parle de d'épaule, parce qu'on a parlé beaucoup d'épaule tantôt, puis maintenant on parle de la coiffe, la fameuse coiffe des rotateurs, bien, la blessure est, tu sais, le muscle qui est touché, c'est un muscle de la coiffe des rotateurs ou c'est un tendon de la coiffe des rotateurs, mais le problème vient de, souvent, soit une instabilité de l'épaule, soit un accrochage, soit le mouvement de la scapula qui se fait pas bien. Dans tous les cas, est-ce que c'est un mauvais contrôle, un mauvais mouvement scapulaire qui a causé une irritation au tendon de la coiffe? Ou est-ce que c'est parce que le tendon de la coiffe est blessé que la scapula a changé de la façon qu'elle bouge? Bien, peu importe which came first, the chicken or the egg, une chose est certaine, il va falloir que tu restaures le mouvement de la scapula. Fait que ça va toujours être primordial. Puis oui, tu vas traiter la blessure aussi, mais pour les entraîneurs, puis moi, je donne la formation aux entraîneurs, mais les entraîneurs, c'est pas eux qui vont traiter la blessure, mais eux vont traiter la fonction de l'épaule.
C'est ça. Puis tu sais, souvent, c'est poche parce que les entraîneurs deviennent avec un rôle, c'est pas des rôles de physio, là, débarquer de vos grands chevaux, c'est pas des rôles de médecin, c'est pas des rôles de scie, mais tu sais, ils deviennent avec un rôle très, très puissant dans régler l'amplitude problématique, tu sais, comme tu dis, parce que c'est rare que ces trucs-là vont être atteints, puis souvent, on va juste, puis pour l'avoir fait personnellement, on va juste prescrire ou proscrire des exercices en faisant juste travailler dans l'amplitude confortable sans amener cette notion-là de progrès. Fait que ce que tu dis, je la trouve très nice pour les entraîneurs. Je pense que c'est définitivement quelque chose qui est à considérer dans le sens que ça va t'amener un certain clientèle, ça va t'amener un besoin, puis ça va au moins amener à ta crédibilité d'avoir ces cordes-là à ton arc, là, au minimum. Tu sais.
C'est un énorme rôle vraiment important que les entraîneurs peuvent remplir. Parce que la réalité, c'est qu'en clinique, il n'y en a pas de rehab, vraiment. Là. Les gens vont en clinique, ils se font traiter.
Ouais.
Peut-être qu'ils se font donner une couple d'exercices, mais il n'y a aucune structure autour de ça. Parce que, je vous dis, bon, chacun son rôle. En clinique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un client, on fait le traitement, on donne peut-être quelques exercices génériques, puis des mouvements à éviter ou à proscrire. Mais là, ce qui arrive, c'est que au-delà de ça, s'il n'y a rien d'autre qui se passe, bien, premièrement, les petits exercices génériques de rehab ne sont pas très intenses. Ils vont faire leur rôle de peut-être réactiver un muscle qui est inhibé par une blessure, mais sans plus. Puis, s'il n'y a pas de structure, puis juste des exercices à proscrire, bien, on underload beaucoup trop la personne.
C'est quoi le problème avec ça?
Bien, là, tu es en train d'élargir ton gap, finalement. Tu es en train de tu es en train de unload même des tissus qui pourraient une charge, si tu étais capable d'administrer cette charge-là tout en protégeant ton tissu qui est touché, tu sais.
Mm-hmm. La connexion est vraiment très bonne, sérieusement.
Oui, ta caméra.
Ouais, je l'ai fermé, là, mais ça a encore buggé ma connexion. Mais oui, va vraiment falloir que je fasse de quoi. J'ai passé la semaine, bon, d'une merde, à enregistrer des podcasts. Puis c'est le premier où est-ce que ça bug tant que ça. Je sais pas s'il y a une question d'heure, genre, avec le monde qui se connecte plus. Il y a vraiment moins de monde sur Internet à trouver. Non, pas tant, avec l'arrêt des... Je sais pas.
Pense-t'en pas?
Non, c'est ça. Parce que t'as raison, ça marche pas. Là, tu m'entends encore?
Oui.
Excellent. Au pire, j'aurais juste l'audio. C'est pas grave. Comment est-ce que les entraîneurs peuvent bridger ce gap-là, mais comment est-ce que le monde peut mieux attaquer ça, mettons? Qu'est-ce que tu enseignes dans tes formations?
Oui, c'est vraiment ça qu'on voit dans la formation niveau 1, c'est comment évaluer la fonction de base du complexe de l'épaule ou du complexe de la hanche.
Pourquoi comment... ces deux situations-là, curiosité personnelle, pourquoi l'épaule et la hanche?
Pourquoi l'épaule et la hanche? Pourquoi
pas le bas de dos, genre?
Ben, parce que ton bas de dos va directement être relié aux fonctions de ta hanche. Fait que ce qu'on regarde, dans le fond, au niveau du complexe de la hanche, c'est le lumbo-pelvic hip complex. Fait que c'est lombaire, bassin, hanche. Tout ça, un rythme normal, une façon normale de travailler ensemble. Puis c'est ça qu'on voit vraiment dans le cours. C'est quoi le mouvement normal au niveau de ce complexe-là? Puis... honnêtement, épaule-hanche, c'est vraiment pour la facilité d'enseignement, là, qu'on a comme splitté ça en deux. Mais tu sais, rapidement, quand on regarde le cours, on voit à quel point les deux sont reliés. Là. Ouais. Que tout ce qui est en c'est le corps, tu sais, ton complexe de l'épaule, complexe de la hanche, tout ce qui est entre les deux, respiration, même tes pieds, tant qu'à moi, là, fait partie de ton corps.
Oui, mais c'est ça. Fait que tu viens de couvrir un grand éventail de blessures potentielles avec ça ou d'interventions juste avec ces deux. C'est intéressant comment tu te l'amènes, hein?
Ouais. Dans le fond, c'est de savoir évaluer cette fonction-là normale, la fonction optimale, c'est quoi, d'essayer d'aller voir c'est quoi les potentielles problématiques qu'on trouve. Oui, on essaye de ne pas utiliser le mot dysfonction. Je sais que c'est un thing là, dans le domaine de l'entraînement, des fois, de ne pas utiliser des mots négatifs comme dysfonction, etc., mais
J'ai jamais entendu le monde bicher le mot dysfonction. Non. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le mot dysfonction?
Non, je
ne
sais pas.
Tu tiens pas avec des thérapeutes, je pense.
Il faut peut-être faire attention quand on le dit au client, là, t'as une dysfonction. oui, peut-être qu'on crée un effet de... Tu sais, psychologiquement, j'ai l'impression d'être dysfonctionnel. C'est peut-être pas une bonne chose. Ah, mais
ouais. Tu dis c'est ça quoi? Comment... T'as une blessure? T'as un problème? Comment tu dis ça?
Bien là, moi, j'essaie d'expliquer, écoute, ton omoplate, c'est normalement, quand tu lèves ton bras, ton omoplate, il faut qu'elle fasse ça, là, actuellement, elle ne fait pas assez, tu sais. C'est dans la formation, on parle de dysfonction parce qu'on est entraîneur, là, tu sais, c'est ça. Mais, bref, c'est ça. Fait que c'est de rétablir, restaurer cette fonction-là. Fait que c'est d'aller évaluer, bien, il est où le problème, où est-ce que ça ne bouge pas bien, puis... concrètement, là, t'sais, avec les résultats de mon évaluation, qu'est-ce que je peux mettre dans mon intervention qui va aller cibler la partie qui ne fonctionne pas comme il faut.
Mm-hmm. Puis, c'est la dans le cas de l'épaule, c'est quoi? Fait que tu vas évaluer toutes les amplitudes et toutes les affaires. C'est juste une question de mouvement ou c'est vraiment une question de mouvement, de pression et de force? Comment tu évalues ça?
Ben, il y a une question de mouvement au niveau de la scapula. Fait que c'est quoi le mouvement normal de la scapula sur le thoracique? Puis il y a tout ce qui peut affecter l'épaule autre que l'épaule, si on veut. Ouais. Fait qu'il y a ton thoracique, il y a ton cervical, il y a ton lombaire. Tout ça peut avoir un impact sur la façon dont ton épaule bouge.
Tu regardes comment ça bouge en premier. Avant de le faire forcer, tu regardes comment ça bouge, en fond.
Ben, t'as des tests de screening, puis après ça, tu peux aller faire des tests plus spécifiques selon ce que tu as vu dans ton test de screening. Fait que c'est vraiment pour essayer de créer un entonnoir, parce que là, ce qui arrive pour les entraîneurs, c'est qu'il y a tout ça de... Attends!
Hey, arrête!
Ce qui arrive, c'est qu'il y a toutes sortes de formations, toutes sortes de protocoles d'évaluation, toutes sortes de... Puis, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sortent en disant « OK, oui, mais concrètement, je fais quoi avec ça après? » Fait Fait que le screening, ben le screening, c'est vraiment ton screening de l'épaule, c'est vraiment pour aller voir ton rythme scapulo-thoracique. C'est vraiment pour aller voir comme qu'est-ce qui se passe, puis tu as ton élévation bilatérale des épaules, puis tu as ton abduction. Puis à partir de là, ben, tu vas observer des trucs, puis tu vas break down ton screening fonctionnel articulaire, c'est-à-dire tu vas aller regarder ton thoracique, ton cervical, ainsi de suite. Puis tu as ton screening, évidemment, musculaire. Est-ce que tu vas aller regarder, y a-t-il des tensions musculaires qui ont besoin d'être adressées aussi? Puis après ça, bien, on parle toutes les interventions sur ce qu'on trouve dans l'évaluation.
C'est vraiment intéressant ce que tu as dit, parce que pour avoir fait le cours en kin, je pense que c'est souvent ça qu'on va faire dans des formations peut-être plus conventionnelles un peu. Puis ça va être juste une question de « voici les tests, partez avec ça, il n'y a plus de contexte, il n'y a plus d'application. » Tu sais, t'as appris à faire un test de Thomas, mais tu ne sais pas vraiment dans quel contexte appliquer ton test de Thomas. Tu sais. Puis tu comprends que dans un truc comme dans un squat, dans un deadlift, ça devient probablement super pertinent. Mais si tu t'es juste fait montrer à faire un test de Thomas pour faire un maudit test de Thomas, t'as pas le contexte de l'application, ton test, il te sert à rien, tu sais. Puis c'est là que toi, tu pallies beaucoup à un besoin, je pense. C'est là que tu arrives avec garder ça avec la population qui nous intéresse, le monde qui s'entraîne, ça a du sens, tu sais.
Ouais. Tout à fait.
Puis ça, c'est intéressant. C'est pas une question d'avoir des outils, c'est aussi de ramener les outils en contexte, là, je pense. C'est vraiment intéressant, là.
Ah oui, absolument. Parce que c'est sûr que dans la formation, on voit des exercices, on voit des nouveaux outils, mais ce que je répète sans cesse, c'est tu sais quoi, des outils, vous en avez. Parce que ce que vous appelez ce qu'on appelle, ben je dis vous, mais moi aussi, là, je veux dire, j'ai travaillé comme entraîneur aussi énormément dans ma vie, là, ce qu'on appelle des variations d'exercice, c'est que là, en fait, ça devient ton exercice de rehab. Parce que cette variation-là, tu l'as choisi en fonction de ce que tu avais à protéger, ce qui était douloureux, ce qui était compensé, quelle compensation tu voulais éviter, sur quelle partie du mouvement tu voulais pouvoir ramener le focus. Fait que tous tes exercices correctifs, tes variations d'exercice, ça devient là un exercice qui est dans ton plan de rehab.
Ben oui.
Ton hand deadlift devient un exercice de rehab. T'sais, ton Anderson squat devient un exercice de rehab parce que tu le places dans ton entraînement de façon spécifique à ton processus de rehab.
Puis c'est super important, c'est pas juste tu sais, des trucs de rehab pour faire des trucs de rehab, comme tu dis, tu sais, puis c'est un problème dans des contextes de classe où est-ce que tout le monde fait la maudite même mobilisation de hanche, tu sais, parce que t'es censé t'en servir à une idée très précise, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis tu sais, pour pas faire ce qu'on a fait, je t'en ai pas parlé, puis tantôt tu me dis si ça te stresse, je pense pas que ça va te stresser, mais pour pas faire ce qu'on a fait, puis manquer de concret pour les entraîneurs ou pour le monde qui écoute, mettons qu'on se fait un petit exercice, une petite étude de cas en ce moment, mettons, ensemble. Mm-hmm. On va évaluer ça. On va prendre un gars qui a mal au dos. Non, c'est pas vrai. Elle même avait évalué pour mon dos, c'est-à-dire que j'ai fait. Mettons qu'on y va avec. J'ai plus mal au dos d'ailleurs. Hein. Just saying, ça va vraiment mieux, je suis content. Mais.
Tu sais que t'es dans ma formation, hein?
Comment?
Tu sais que t'es dans ma formation, je te l'avais dit. Hein. Il y a des vidéos de toi dans ma formation.
Ouais, te rappelles-tu? Sûrement que tu t'en rappelles pas. Mais ben, peut-être que tu t'en rappelles, là, mais quand on avait fait ton cas. Tu avais un exercice où est-ce que tu évaluais le mouvement lombaire, la mobilité au niveau lombaire. Puis moi, je l'avais fait, puis toute la classe avait arrêté. Puis tout le monde avait regardé, tout le monde avait fait genre « hi, hi ». Mais j'avais aucune fucking mobilité. Le programme que tu m'avais mis, c'était juste parce que m'avait fait un programme avec ça. C'était juste des hosties de 4 camels, genre. Puis j'étais pas capable de bouger mon bas de dos. J'avais pas, tu sais, puis ça ramène un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est super important parce que je savais pas que c'était ça mon problème, j'avais pas de contrôle de cette région-là. J'étais même pas capable de la bouger, tu sais. Fait que là, faut que tu règles un problème que tu sais pas que t'as, genre. Tu sais que t'as mal, genre, mais tu sais pas c'est quoi le problème, tu sais.
Non, c'est ça. Puis c'est ça, je veux dire, quand je te dis que dans le niveau 1, on régresse à la base parce que. Premièrement, tu as ton rythme lombo-pelvien, c'est-à-dire que quand tu penches vers l'avant, là, tes hanches devraient fléchir, c'est-à-dire ton bassin devrait reculer, ton bassin devrait faire une antéversion, ton lombaire devrait aller en flexion. Mais si tu n'as pas si tu n'as pas cette mobilité-là, si tu es rigide au niveau lombaire, bien ça va être la première affaire à travailler. Après ça, il faut que tu sois capable de prendre cette mobilité-là puis de la limiter volontairement pour faire un pivot de la hanche. Mais pour faire un pivot de la hanche, il faut que tu aies une connexion avec ton bas de dos, ton bassin, puis être capable de dissocier le mouvement des deux. Ça, c'est, tu te souviens, ça, on avait fait ton, je t'avais fait faire un hinge à genoux, puis tu m'avais regardé, je n'ai aucune idée sur où mes hanches en ce moment.
Ouais. Oui, ouais, oui, c'est vrai, oui.
Ouais. Ça ne t'empêchait pas de deadlifter d'énormes poids, tu sais, puis tu as deadlifté vraiment pesant pendant vraiment longtemps, mais au moment où
t'es venu... Vraiment pesant, faudrait définir vraiment pesant, merci, mais je pense pas que c'était si pesant que ça. Mais j'apprécie, merci, c'est très gentil. Mais non, c'est clair que non. Puis c'est sûr que c'est pas optimal non plus, tu sais, faire les choses correctement. Je suis pas mal sûr que mon dad, il aurait été pas mal plus haut, là.
Ben oui. Si je m'étais arrêté à dire, OK, mais tu sais, je veux dire, clairement, il bougeait déjà comme ça, puis il deadliftait pareil, pesant, fait que c'est pas ça son problème, ben, ah, OK, j'aurais pu m'arrêter à dire ça, mais moi, mon thinking, c'est, ben, de un moment donné, le corps a fait, ben, gars, tu vois, je suis plus capable de le tolérer. Non,
moi, c'est juste fait, nope, c'est assez. Il n'y a plus. Il y a pas eu d'avertissement, là. Il y a eu ça. Ça finit là, mon homme. Il n'y a pas de négociation, là.
Tu sais, c'est de dire, ben oui, on va prendre 2-3 pas en arrière. On va te faire faire des deadlifts à genoux. Puis, t'es pas le premier à qui j'en ai fait faire. Mais après ça, ben on va. Parce que intuitivement, quand, tu sais, dans le cours, je montre une photo de. T'sais, penché vers l'avant, la flexion complète avec l'arrondissement, puis je monte une photo d'un pivot, juste un pivot de la hanche, genre je me penche pour mettre quelque chose dans le coffre de char, là. Puis un deadlift. Mais un, deux, trois, mais les trois sont fondamentaux. Par contre, on se tue à toujours essayer de corriger le deadlift avec le deadlift ou avec... T'sais,
ouais,
tu comprends?
C'est vrai, ouais, ouais, non, c'est vrai qu'on a peur de faire ce step-back-là beaucoup, les entraîneurs, tu sais. Puis souvent, c'est vraiment nécessaire, tu sais. Il y a tellement de monde qui font du deadlift en à côté qui n'ont jamais fait de RDL, genre.
Ouais.
Ils ont peur de même, mais comme... Je ne sens pas mes ischios, ouais, mais tu les as jamais sentis, bro. Tu t'attends à ce que tu sois capable de les mettre dans un exercice fucking complexe, genre. Mais tu sais, cette idée-là est vraiment, vraiment intéressante, tu sais. Puis mettons qu'on start, là, on est parti sur un code d'eau, mettons qu'on reste dans ta thématique d'épaule puis d'ange depuis tantôt, là. Mettons qu'on aurait quelqu'un... C'est quoi des cas communs que tu vois à l'épaule, mettons? Des blessures communes... chez des populations actives qui s'entraînent? As-tu des cas, une blessure plus commune?
Il y a beaucoup d'irritation de la coiffe, tendinopathie de la coiffe, des rotateurs. T'sais, on le sait, on l'entend tout le temps, on sait que c'est commun, c'est vrai que c'est commun.
En overhead, dans des positions précises en haut de ta tête ou c'est dans des...
C'est même pas toujours dans l'overhead, des fois c'est même dans les push-ups, même dans le horizontal press. Je veux dire, oui... J'ai beaucoup de clients qui font du CrossFit, fait que souvent c'est dans les positions overhead que ça va être douloureux. Mais c'est souvent particulier. Des fois, c'est dans tout ce qui est B-swing et compagnie, mais pas dans le strict. Si je fais un pull-up strict, je suis correct. Si je fais un toe-to bar strict, je suis correct. Si je fais un B. Fait que des fois, il y a des toutes les cas ne sont pas pareils. Des fois, il y a des instabilités au niveau de l'épaule.
C'est quoi qui explique ça que dans un strict c'est correct et dans un keeping c'est pas correct? Le contrôle qui diminue, c'est quoi?
Ben, ça souvent c'est plus du cas d'instabilité. Fait qu'évidemment, parce que t'es moins, tu sais, dans le B-swing, t'es plus, on va dire, passif si on veut, ou tu te fixes aux éléments, aux stabilisateurs passifs de ton épaule. Si moindrement t'as de l'instabilité à ce niveau-là, ben, vu que t'es pas en strict, tu vas avoir moins de stabilisation dynamique au niveau de la tête de l'humérus, fait que ça va bouger plus, ça peut pincer plus d'affaires.
OK. Ah, ben, je savais pas que tu faisais un split entre stabilisation dynamique et stabilisation statique, j'imagine. Ça doit être ça, l'autre. Là, tu fais une séparation entre ça et ça. OK, nice. Mais là, tu viens réellement de m'apprendre de quoi. Je savais pas du tout, sérieusement. Et c'était intéressant, cette idée-là. Parce qu'en CrossFit, c'est pratiquement juste du... On parle de CrossFit, pareil, CrossFit, là, en ce moment. Là. Mais c'est pratiquement juste du dynamique, là, dans pas mal tout, là. Fait que c'était quand même intéressant, toi.
Oui, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que la stabilisation devient excessivement importante.
Mm-hmm. Puis pour revenir à ça, cette idée-là de revenir aux mouvements un peu plus fondamentaux, t'entends quoi par ça exactement pour la majorité des gens?
Ben là, tu parles encore au niveau de l'épaule ou?
Bon, vas-y en général, mais oui, ça peut être au niveau de l'épaule.
Parce que souvent, c'est d'une part, c'est d'aller traiter ce qui... faut aller regarder tout ce qui peut être une barrière au mouvement optimal de l'épaule. Mettons que tu regardes...
Oui, j'aime ta métaphore. J'aime vraiment beaucoup ta métaphore. L'idée de la barrière au mouvement, c'est cool. Je savais pas que tu le montrais comme ça, sérieusement. C'est vraiment hot parce que, tu sais, là, tu arrives dans plein de discussions qu'on n'aura pas ce soir, à moins que tu veuilles les avoir, mais je suis pas très intéressé d'avoir ça. Mais, tu sais, toute cette idée-là du mouvement, c'est la vie, puis tu as bien des coachs de vie qui le poussent dans ce sens-là, là. Mais, tu sais, j'aime comment tu l'amènes de n'importe quoi qui est une barrière au mouvement est un problème potentiel en réadaptation. Ça, je trouve ça quand même nice, la façon dont tu le brilles.
Oui, tout à fait.
Mouvement de base.
J'ai une idée encore.
C'est quoi, t'as dit, excuse?
J'ai perdu mon idée encore.
Tu parlais de mouvement de base avant que je te parte sur ma thématique. De...
Quand tu appuies ton épaule, tu vas aller, ça va te permettre d'apercevoir comme qu'est-ce qui bouge pas bien. T'sais, est-ce que c'est ton omoplate qui fait pas toute sa rotation externe, son upward rotation, mettons? Mm-hmm. Est-ce que c'est ton thoracique qui bouge pas en extension ou en rotation? Fait que ça, c'est des choses que tu vas aller adresser. Mais l'idée, tu sais, je te dirais overall, parce que bon, je pourrais partir longtemps là-dedans, mais overall, l'idée, c'est d'avoir une structure dans ton approche. Puis c'est ça la chose qui manque. Les gens ont mal à l'épaule, ils vont se faire traiter, ils se font donner un exercice pour le rotator cuff, puis bon, fais moins de pull-up, fais moins de kipping, fais moins de toe-to-bar, fais moins de wall-ball. Fait que, tu sais, je veux dire, somme toute, OK, mais pendant combien de temps je fais ça? Puis quand est-ce que je peux recommencer? Puis que c'est sûr que si tu arrêtes de faire ce qui est irritable, ta douleur va partir. Mm-hmm. Mais comment tu vas recommencer à le faire? Parce que je te garantis que si tu avais mal en faisant des kippings, puis tu arrêtes pendant 2 semaines, tu n'auras plus mal. Puis quand tu vas en faire, tu vas avoir mal.
Mais oui, parce que mais ça, c'est vraiment intéressant. Le contexte est tellement favorable à ça en ce moment. T'sais. Cette idée-là, de tu peux voir toute cette situation-là de COVID-19 comme étant négative, si tu veux. Mais là, le fait, c'est que ça, pour la majorité des gens, ça force à prendre un break forcé. Profites-en donc pour attaquer ces affaires-là qui te nuisent anyway. Comme ça, tu vas revenir non seulement... Ton temps de repos, il n'aura pas servi à rien. Tu sais, tu vas revenir avec un meilleur potentiel de développement après. Tu sais. Toutes les petites merdes que tu négligeais avant, genre ce que tu dis en ce moment, genre toutes les petites affaires plates que tu ne fais pas dessus. Puis le monde le savent, là. Tu sais, le monde le savent que leur overhead, il est super chambranlant, toutes ces affaires-là. Puis souvent, ils ont une certaine idée de ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas, tu sais.
Non, puis des fois, ils ne le font pas parce que ils ne le sentent pas.
Et quoi?
Ils ne le ressentent pas. Tu sais, mettons, je te dis... Tu sais, mettons, je te dis, ton trapèze inférieur, tu sais, le fameux trapèze inférieur, on va faire du trap 3, ouais, c'est bien beau, ça me brûle en arrière de l'épaule, mais au-delà de ça, j'ai pas aucune conscience de ce que c'est supposé de faire, tu sais. Mais ton trapèze inférieur, ton serratus, c'est quoi leur fonction?
C'est une vraie question?
C'est une vraie question.
Ton trapèze inférieur, il va... empêcher la rotation externe de la scap, puis c'est un stabilisateur en haut de ta tête. Puis l'autre, c'est quoi?
Le serratus.
Le dentelé antérieur?
Oui.
Le dentelé antérieur, c'est un protracteur de la scapula?
Aussi, tout à fait.
C'est quoi que tu fais d'abord?
Je travaille aussi beaucoup pour faire ton tilt postérieur.
Ah, OK, je ne savais pas ça, vois-tu?
L'omoplate, là, c'est l'affaire que ça prend pour ton end range rotation externe, c'est ça que ça te prend pour ton full overhead, c'est ça que ça te prend pour avoir de la stabilité
en overhead. Ben oui, c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça, t'as raison.
Entre faire un trap 3 ou faire un exercice où est-ce que je comprends que mon omoplate fait un tilt postérieur puis je le sens, c'est deux mondes, tu sais. Ça a l'air de rien, vu comme ça, sur un podcast avec un verre de vin, là. Mais... Mais quand on passe à travers ces exercices-là dans la formation, qui sont des exercices pour activer des muscles, mais surtout pour créer une conscience, ben il y a tout le temps comme un moment de OK, ouais. Wow, tu sais, ça c'est mon moment de fierté, là.
Tu sais, c'est vrai, puis c'est là qu'on parlait un peu du gap dans le monde de la thérapie puis dans le monde de la performance avec tout ça, c'est que les gens. Tu peux faire tous les maudits exercices. Mettons que, je sais pas, quelqu'un viendrait te voir pour un problème avec son overhead squat. Là, tu fais tous les fucking exercices de renforcement. Trap 3, face pull, là, t'es fait tout, là, toute la gang. Là. Mais tu sais, si t'as jamais appris le positionnement, si t'as jamais appris à le transférer directement, peut-être que t'as un meilleur potentiel après, mais tu sais, comme tu dis, faut que tu l'appliques. Puis c'est là qu'une approche comme la tienne est super importante. C'est là qu'il y a un but de concrétiser tout ça. C'est pas juste de garrocher des informations, tu sais.
Ouais. Ça demande de l'éducation auprès du client, ça demande du temps, ça demande, tu sais, évidemment, une assiduité au niveau du client, parce que, tu sais, comprendre puis ressentir le positionnement, c'est un travail qui se fait au long terme, tu sais, je veux dire, j'ai 42 ans, je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans, fait que, tu sais, mon positionnement, je le sens quand même bien. Mais là, tu as plein de monde qui se sont garochés dans l'entraînement que non, ils n'ont jamais passé du temps à faire ce travail-là. Ils n'ont pas fait de conventionnel, ils n'ont pas fait de bodybuilding style training.
C'est mais... plate parce qu'avant, c'était un peu le passage forcé. Ouais, comme tu voulais commencer à t'entraîner, il fallait que tu passes par une salle d'entraînement. C'était Arnold, notre dieu, puis ça finit là, tu sais. Puis le fait de perdre ça, ben évidemment, c'était pas juste positif parce que ça l'accrochait. Il y a plein de monde que ça l'accrochait juste pas, ça, puis c'est 100% compréhensible. Mais tu sais, ça l'avait du bon côté, cette partie-là aussi, là.
Mais fait que le challenge est qu'il faut t'essayer de récréer ça. Puis si tu veux aller chercher cette conscience-là du mouvement, ben il faut que ça soit répété de façon fréquente. Mais on en parlait tantôt que là, c'est bien beau, tout le monde a plus de temps, tout le monde est confiné à la maison, ils vont passer du temps là-dessus, mais dans notre monde normal auquel on est habitué, les gens n'ont pas le temps. Fait que oui, ça nécessite une structure, mais il faut que tu trouves un moyen de rentrer ta structure de façon efficace pour qu'elle prenne moins de temps, pour que les gens l'intègrent, pour que les gens
c'est le fassent à toi. C'est pour vrai, c'est pas si long tes affaires à toi. Il me semble que tout ce que tu me faisais faire avant mon dette, ça prenait maximum 5 minutes. Là.
Mais c'est ça la stratégie que j'ai bâtie. Des fois, okay, ça prend. Okay, okay. C'est la seule façon que je peux faire passer ça pour que les gens le fassent assez souvent. Mais ça marche.
Ouais, c'est ça.
Parce que, tu sais, la majorité de tes exercices, je veux dire, ça marche si tu as une structure après dans la balance de ton entraînement pour garder la force dans le décor, là, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr que oui. Non.
Que ce que tu fais qui est à faible intensité, ben tu le fais court, tu le fais à tous les jours, tu le fais fréquent, ça va fonctionner parce que ça nécessite ça. Mais la balance, il faut qu'elle soit faite aussi. Il faut que tu modifies la balance de l'entraînement.
C'est ça que tu conseilles au monde, de le faire à tous les jours ou de le faire juste avant? Mettons, tu as réévalué quelqu'un, tu aurais un problème quelconque, tu dis au monde de faire la mobilité à tous les jours ou tu fais juste avant les moments problématiques?
Il y a beaucoup d'aspects que je leur fais faire à tous les jours.
OK.
Puis, tu sais, je dis à tous les jours parce que généralement, tu dis à quelqu'un, fais-les 7 fois par semaine, ils vont le faire quoi?
Ouais, c'est ça, la part de rien, ouais. Puis il va t'en regarder à ton bureau puis il va te dire, je l'ai fait à tous les jours.
Ou, si j'ai des gens qui chient très bien, qui viennent au gym 5 fois par semaine, puis je leur ai monté quelque chose qui rentrait dans leur warm-up, ben je sais qu'ils vont le faire 5 fois par semaine. Fait que c'est pour ça que j'utilise cette stratégie-là, puis c'est cette stratégie-là que j'enseigne, parce que c'est comme ça que tu vas... La réalité, c'est que c'est comme ça que tu vas réussir à avoir de la fréquence. Parce que si tu leur montres... Tu peux leur monter le meilleur plan de rehab au monde. Bon, ça n'existe pas, mais bon, le meilleur plan de rehab au monde, s'il dure 35 minutes, les chances que la personne fasse ça tous les jours sont zéro. Puis, on va se le dire, les chances que quelqu'un flush un entraînement pour faire ton entraînement de rehab, même quelqu'un qui est en douleur, sont aussi minimes. Malheureusement, ouais. C'est la réalité.
Mais tu sais, on avait eu une question tantôt, pour ceux qui joignent à nous tantôt, je ne sais pas ce qu'on a parlé dans notre intro, mais tu sais, on a essayé 3 plateformes différentes avant de faire notre fucking podcast aujourd'hui, tu sais. On a essayé Zoom, j'ai eu un problème avec mon propre Zoom personnel, fait qu'on est allé sur Zoom Ami, on avait encore un problème avec le Zoom, après ça, on est allé sur Instagram Live, ma connexion était de la merde, ça ne marchait pas. Fait que là, bref, on s'est ramassé sur Skype de faire ça. Mais tu sais, quand on était sur Instagram, il y a quelqu'un qui avait parlé des exercices qui faisait ces exercices de mobilité avant de se coucher. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que moi, j'avais expérimenté un petit peu avec ça, dans le sens que je faisais, c'était plus du stretching, là, c'était plus du passif, juste avant de me coucher, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui a de la misère à décrocher dans la vie. Mettons, quand je suis dans de quoi, je suis fucking all out là-dedans. Puis le fait de prendre une espèce de 5 minutes de break, de stretching avant d'aller me coucher, ça avait eu des gros, gros, gros impacts positifs sur mon sommeil. Puis je sais pas ce que c'est le stretching ou la mobilité en soi, mais tu sais, juste la coupure avait été vraiment puissante. Fait que je trouvais ça intéressant, cette idée-là de, tu sais, oui, ton monde, ils le feront probablement pas, mais il y a peut-être des moments où est-ce que ça peut être approprié pareil. Là. Je sais pas, je serais curieux de ton opinion là-dessus sur... mobilité soir ou sommeil slash mobilité?
Oui, si tu as un plan de mobilité qui est fait qui fait en sorte que ça va t'amener dans le parasympathique, mettons, mais c'est sûr que ça va aider à te calmer puis à t'amener à... Hein?
Toi, tu penses quoi de ça?
Ben, c'est bon. Je pense que si ça fonctionne pour toi, c'est bon. C'est sûr que moi, les plans que je monte pour les gens de rehab, c'est pas juste de la mobilité, de un.
Ouais.
Ça peut servir de warm-up, c'est-à-dire qu'il y a une réactivation par la suite. Fait que si tu fais ça avant le dodo, probablement que ça va nuire un peu à ton dodo.
Ah ouais, c'est clair. Ben oui, bon.
La mobilité comme telle, oui, tu sais, moi, personnellement, ça me stimule un peu. Fait que je pourrais pas le faire avant de me coucher.
Ah ouais, ça te stimule?
Oui. Ah, comme un little charge, c'est que Chris dirait. Là. On dirait que ça nous
Fun fact sur le neural charge, j'avais une cliente en chimio, je sais pas pourquoi je dis ça, ça me semble une bonne chose à te dire en ce moment. J'avais une cliente qui a fait de la chimio toute l'année passée, puis elle a tenu à s'entraîner parce que c'est là qu'elle voyait son monde, puis qu'elle voulait, tu sais, c'était même pas tant une question d'entraînement physique, c'était pas une question de physiologie de l'entraînement, là. C'était pas une question de ça, c'est juste, il y a plein du monde que je vois, j'ai plein d'amis ici, quand je finis de travailler, ça me fait du bien venir au gym, vraiment cet aspect-là, puis elle a tenu à s'entraîner vraiment le plus longtemps possible pendant sa chimio. Puis à la fin, j'étais rendu que j'y faisais quasiment juste le Neural Charge de Christian Thibodeau. Puis ça marchait comme une fleur, là. Ça marchait vraiment, vraiment bien, là.
Ouais.
C'est vraiment intéressant. Mais ça fait déjà pas mal. Ça fait 27 plus 25, ça fait un peu plus que 50 minutes qu'on est parti déjà. Ça a quand même bien, on a quand même un peu de contenu, c'est quand même intéressant. J'avais une question pour toi que je voulais te poser, puis c'est très personnel avant qu'on raccroche. Sur qu'est-ce que tu penses des accrochages à des spots précis? On entend quand même une couple de petites opinions différentes là-dessus. Mettons, quelqu'un qui squatte, qui entend, il y aurait tout le temps un toc ou un espèce de bruit qui fait pas mal. Je sais pas si tu comprends de ce que je veux dire.
Ouais, un genou qui craque tout le temps.
Tout le temps, puis tout le temps en même amplitude ou ces affaires-là. C'est quoi ton opinion là-dessus?
Je t'avouerai que là, j'ai souvent des gens qui me demandent ça.
OK! Ouais. Ah, mon Dieu, je pensais que c'était original, j'espère.
Non. C'est l'évaluation. C'est pour avoir eu des gens qui venaient me voir pour toute autre chose et qui me disaient « Ah, en passant, quand je squatte, j'ai tout le temps, genre, on dirait mon genou, une affaire qui bouge. » Puis pour essayer de l'avoir évalué, puis faire des tests, toutes sortes de tests pour aller essayer d'évaluer c'est quoi, c'est-tu problématique, c'est-tu... c'est la majorité du temps. Des fois, l'origine est un peu, c'est nébuleux. Je suis pas trop certaine. Je peux pas dire, ah ouais, c'est ton tendon de l'ischio qui jump ou qui. Puis, comme c'est pas douloureux, je te dirais que la plupart du temps, je fais, ben, si t'as pas de douleur, puis c'est pas problématique, puis que c'est là depuis un bout de temps. Ben, là, selon moi, c'est pas nécessairement un problème. Là.
Parce qu'on entend beaucoup de monde attaquer ça pareil, tu sais.
C'est sûr que tu peux. Ben, j'ai pas vu récemment des trucs là-dessus. En tout cas, si tu as vu des articles ou des trucs comme ça, let me know, là.
OK.
Ben, tu sais, des fois, je vais même évaluer plus haut, tu sais. Y a-tu une petite rotasse? Mettons, c'est dans le genou, là, un petit craquement. Bon, tu sais, y a-tu quelque chose qui... on peut-tu voir quelque chose ailleurs, plus haut, plus bas, qui est débalancé? Y a-tu un pied qui travaille pas comme l'autre? Y a-tu une rotation au niveau de la hanche? Y a-tu une dénivellation au niveau de la hanche? Puis, tu sais, des fois, soit tu trouves rien ou soit tu trouves rien qui est significatif, qui pourrait occasionner ça. Fait que je te dirais que c'est un gros... Les trucs comme ça. T'sais, moi, j'ai un genou qui craque tout le temps, une cheville qui craque tout le temps. Le même mouvement que je fais, je peux la faire craquer. Ça persiste depuis 24 années. Ça n'a jamais été douloureux. Ça n'a jamais été problématique. Fait que
c'est ça. C'est pas un combat qui vaut la peine d'être mené, mettons.
Okay. Ben, c'est sûr que si c'était douloureux, là, je m'entêterais à vouloir investiguer puis vouloir trouver, là. Mais quand c'est un, tu sais, ça fait un petit cloc, mais ça fait longtemps que ça fait ça, ça a jamais fait mal. Bon, on n'est pas parfait, on n'est pas parfaitement symétrique, notre corps n'est pas symétrique droite-gauche.
Puis on a tendance.
Il y a certains muscles qu'il y a des gens qui n'ont pas. Ouais. Je fais ça parce que je parle du. C'est le palmaris longus, là. Fait que c'est le muscle quand tu fais le claw, là, ton espèce de tendon qui sort ici. Là. Ben, c'est pas tout le monde qui a ce muscle-là, apparemment. T'sais. Fait que c'est ça.
Mais on a tendance à l'oublier, ça, surtout les fans de barbell comme moi, où est-ce que là, la charge est parfaitement distribuée de manière égale, puis est tout le temps équilibrée, mais t'es comme. À la base, ton corps n'est pas dans cette situation d'équilibre-là. Fait que ça, c'est intéressant ta métaphore, je trouve ça vraiment cool.
Pour. Tu sais, tantôt, quand tu as dit, sais-tu, pour certaines personnes, c'est devenu normal de ne pas bouger, de ne pas bien bouger. Puis là, j'ai dit, ouais, je verrais plus que c'est devenu normal de bouger la douleur. Ça, c'est pas correct versus pas bien bouger. Je ne sais pas pourquoi ça me ramène à ça. Parce que tu disais en powerlifting, avec les charges, tout bien, tout égal, tout réparti de façon symétrique. Puis ça me refait penser à ça. Puis je me disais, ben, tu sais, en termes de pas bien bouger, on tu sais, des fois, on juge beaucoup quand il se fait des deadlifts rapides avec un, mettons, peut-être une petite flexion lombaire, là. Mais ouais. Si on considère que le poids que cette personne-là utilise, ça équivaut à son à peu près son 40 RM, d'après moi, il peut tolérer de faire ses deadlifts avec le dos arrondi. Tu sais, c'est pas big deal. Puis je pense que le corps a besoin de cette tolérance-là. Fait que
Cette idée-là, tu sais, il y a beaucoup de jokes qui sont faites. Moi, en tout cas, des vidéos de grammaire nazi, là, où est-ce que tu as, mettons, des gens qui reprennent du monde sur de la grammaire, là. Moi, ça me fait vraiment rire tout le temps parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui finit vraiment fâché, là. Mais tu sais, en entraînement, il y a tout le temps cette personne-là qui est comme, faut que t'ailles un angle de fucking 92 degrés entre ton sacrum. Puis tu sais, t'es comme, ouais, peut-être. Mais tu sais.
Parfaite comme ça quand tu vas ramasser ton kid à terre, tu sais.
Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est intéressant de comprendre que j'aime beaucoup ton approche de comment tu l'amènes. Puis ça, c'est pour avoir fait ta formation, là, tu sais, cette idée-là que tu veux pas avoir quelque chose de parfait, tu veux juste avoir quelque chose qui. Je le mets dans mes mots, là, je m'excuse si je te fais dire des affaires que tu n'as jamais dit, là. Mais tu sais, tu veux pas avoir quelque chose de parfait, tu veux juste avoir quelque chose qui défile pas trop d'une normalité ou quelque chose qui est optimal, mettons. Puis moi, j'avais tendance, en tant que coach altéro, je pense, à être tellement focus sur ces détails puis ces petites affaires. Puis t'es comme, peut-être que son extension va faire que sa barre va avancer d'un pouce puis que c'est pas optimal au niveau mécanique. Mais si le lifter est plus fort comme ça, tu sais, moi, ça a vraiment ouvert mon ouverture sur bien des affaires. Ça, je trouvais ça intéressant, cette métaphore-là.
Ouais. Tout dépend de... C'est quoi le potentiel que ça fonctionne plus à un moment donné, tu sais.
Ouais. Mais merci. Non, t'avais-tu quelque chose à ajouter?
Je pense pas.
On a fait le tour. Parfait, ça. Merci énormément d'avoir été là. Merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver?
Facebook, Instagram, mais _ rehabu. Rehabu.com. C'est Internet. Puis c'est pas mal ça. Écoute, si Instagram, c'est très. C'est éducatif comme contenu. Je le dis, ouais. Je le dis tant, là. C'est pas des.
J'en profite pour faire une plug. Vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là, dans le sens que si tu te promènes dans le monde du fitness sur Instagram, c'est facile de ressortir puis d'être découragé en sacrement. Tu sais, c'est facile de faire genre, right, un autre style booty shot, là. Tu sais, mais t'es comme. Il y a vraiment du monde qui met du contenu fucking intelligent puis fucking développé, qui font vraiment des meilleurs coachs, je pense. Puis je pense qu'au Québec, tu fais vraiment partie de ceux-là. Fait que j'en profiterai pour faire un blog personnel, d'aller voir le truc de May. Il y a beaucoup de trucs que moi, j'ai appris, que j'ai apporté pas mal ma ressource numéro un quand j'ai besoin d'exercices correctifs ou des affaires comme ça. Là, fait que je vais souvent piquer sur ton Instagram pour ces raisons-là. J'invite vraiment tout le monde à aller faire puis aller faire un tour. Sinon, ta formation, moi, personnellement, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Fait que si tu es un coach en ce moment dans une période de COVID-19, que tu ne sais pas quoi faire, puis que tu cherches une formation qui va définitivement rentabiliser ta pratique, que je t'envoie directement sur celle de May, que tu viens de mettre en ligne d'ailleurs, je pense que tu l'as mis en ligne la semaine passée.
Non, elle sort le 15 avril, mais elle est en pre-sale.
Être en puissance en ce moment, puis c'est vraiment une affaire de même Pepa, elle se dit ça. Tu m'as pas envoyé, en tout cas, si tu m'en envoies une, je dirais pas non, là, surtout en cette période-là, mais même m'a pas envoyé une ristourne pour vous dire ça. Je vous invite vraiment fortement à aller suivre ça. Je pense que c'est vraiment une formation qui peut vraiment payer beaucoup là, si vous voulez aller faire un tour là-dessus. Là. Je pense que tu l'as dit.
Yes. Encore notre quatrième podcast ensemble, je pense.
Je sais pas, sérieusement. Je pense que tu dois être. Toi, Jake, Matt Dubreuc, puis Maxime Saint-Onge, vous devez pas mal être ceux qui ont été là le plus souvent, hein. Mais je compte pas. Puis le Momentum Show est fini, théoriquement. Fait que théoriquement, tout le monde repart à un, je pense.
Ah, bon.
C'est pas vrai, je te niaise. Ouais. On va remonter, on va remonter. Elle est fucking compétitive, là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. La majorité des gens qui écoutent ne sont pas abonnés. Abonnez-vous au podcast. Puis n'hésitez pas à me laisser un petit review. Ça fait une grosse, grosse différence à la visibilité. Nouvel épisode à chaque semaine. Puis à une prochaine fois tout le monde.